surtout que c'est l'heure du LEM, l'émission quotidienne de Transistor, du lundi au vendredi. Et aujourd'hui, c'est avec le réseau paysan du Finistère, le CIVAM, et une caisse commune alimentaire à Brest.
LEM, l'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM. LEM, c'est l'abréviation de l'émission ou le magazine qui vous nourrit les oreilles de bonnes ondes finistériennes. Et une fois par mois, on va à la source des productions nourricières en compagnie du réseau paysan, le CIVAM du Finistère. Souvent, c'est une émission qui nous fait entendre les réalités diverses des agricultrices, des agriculteurs. Et aujourd'hui, ce sera un peu différent. On va quitter la campagne pour la ville déjà. On va s'intéresser aux mangeuses et aux mangeurs pour faire le bilan d'une opération originale, la caisse commune alimentaire à table. Elle a eu lieu de mai à novembre à Brest. L'expérimentation rassemblait 100 habitantes et habitants d'horizons divers et avait pour but d'encourager l'accès à des produits locaux, bio, de saison, avec une approche participative et inclusive. Dans cette émission et pour faire donc le bilan de cette action qui est en pause mais qui va sans doute reprendre sous une forme un peu différente, il y a Adèle Ferré qui est coordinatrice du collectif À Table qui a piloté le projet, Michèle Salin qui est habitante du quartier de Quéréderne à Brest qui a aussi participé et Violette Divet pour le CIVAM. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour.
Quel est déjà le principe de cette caisse commune alimentaire qui ne sort pas de nulle part? Il y a un contexte. Hein. Voilà. Alors, je ne sais pas qui commence. Adèle?
Ouais, je commence. Alors oui, ça sort pas de nulle part. La sécurité sociale de l'alimentation, c'est en France depuis... On y réfléchit en France depuis quelques temps. Et donc nous, on s'est mis dans cette mouvance-là. En fait, la sécurité sociale de l'alimentation, c'est reprendre à peu près les mêmes principes de la sécu que tout le monde connaît maintenant. Et donc de pouvoir permettre à tout le monde de se nourrir comme il le désire. Et en fait, une caisse commune alimentaire, c'est une expérimentation locale de la sécurité sociale de l'alimentation. Donc c'est expérimenté avec, avec un petit groupe d'habitants et habitantes. Voir à l'échelle locale comment ça peut fonctionner sur trois piliers du coup qui sont cotisation, universalité et le conventionnement.
Donc le système là d'une sécurité sociale alimentaire générale, ça serait une contribution des gens, les gens contribuent, payent et puis on répartit en fonction des revenus, j'imagine. Voilà. Et il y a eu d'autres expérimentations de sécurité sociale alimentaire avant Brest.
Oui, alors j'ai pas le chiffre exact, mais maintenant je crois qu'il y a à peu près alors, il y a de caisses communes, il y en a à peu près 60, je crois, en France, il me semble. En Bretagne, il n'y en a pas beaucoup encore, ça commence. Il y a Morlaix qui est en cours d'expérimentation aussi, qui commence les inscriptions là. Et après, ça réfléchit aussi à Rennes, à Lorient, à Nantes, etc. Mais oui, il y en a maintenant 60. Donc, nous aussi, on s'est inspiré de ce qui a été fait ailleurs, notamment de caisses qui fonctionnent depuis 3-4 ans, comme Montpellier, etc., pour l'adapter, nous, à nos réalités aussi du territoire.
Et Violette Divet, ça, c'est un sujet que le CIVAM suit depuis longtemps aussi, la sécurité sociale alimentaire. Il y a eu des recherches même, scientifiques.
Oui, en fait, ça s'inscrit dans une réflexion assez large sur les questions d'accès à l'alimentation. Nous, on travaille au CIVAM sur les liens entre agriculture et alimentation depuis un moment, notamment en lien avec le centre social de Quéréderne à Brest, pour faire le lien entre ville et campagne autour de ces enjeux-là. Il y a eu pendant plusieurs années une recherche-action autour du projet Accessible qui avait donné notamment le film documentaire La part des autres et tout un tas d'autres projets.
Accessible qui montrait que c'était justement pas du tout évident pour notamment des populations très précaires de s'alimenter avec de la nourriture de qualité, notamment en rémunérant à un juste prix les producteurs et les productrices, quoi.
Voilà, c'est ça. Ça part d'une réflexion un peu globale, en fait, sur le fonctionnement de notre système alimentaire. Le point de départ, nous, notre réflexion, c'était les paysans et paysannes de notre réseau qui voyaient bien que les consommateurs des circuits courts qui voyaient, eux, sur les marchés ou à la ferme, ça ne représentait pas tout à fait toute la population. Ce qui les amenait, en fait, à remonter le fil et d'avoir une réflexion un peu globale jusqu'à questionner, en fait, le fonctionnement de l'aide alimentaire pour savoir, en fait, comment faisaient justement les gens qui n'avaient pas le choix dans leur alimentation. Et du coup, avec ça c'est au niveau des CIVAM, mais c'est plein de structures qui ont commencé à développer ce regard un peu critique de l'aide alimentaire en disant que c'était un système d'urgence qui était complètement indispensable. et qu'en même temps, il était complètement dépendant de notre système de production actuel, dépendant des surplus de la production du supermarché, de l'industrie agroalimentaire, etc. Et que les personnes, du coup, n'avaient pas du tout de choix. C'était un accès qui était questionné de recevoir des dons de cette manière-là, avec des enjeux autour de la dignité des personnes, etc. Mmh. Donc, encore une fois, ce n'est pas une critique des associations qui travaillent sur ce sujet et qui sont complètement indispensables aujourd'hui dans le système. Mais la réflexion autour de la sécurité sociale de l'alimentation, c'est comment on fait pour passer de dispositifs qui sont ciblés sur des personnes qui sont dans des situations de précarité à un système qui est plus universel.
Et plus actif aussi.
Moins stigmatisant, ouais. Et qui permet effectivement de faire participer directement les personnes.
Et où il y a un vrai choix de ce qu'on va manger. Michel, Salin, vous aviez participé à d'autres opérations à Brest autour de l'alimentation de qualité, accessible à tout le monde. Qu'est-ce qu'il y avait par exemple ?
Oui, comme disait Violette, ça fait très longtemps qu'on travaille avec le CIVAM sur l'accès à l'alimentation dans les quartiers populaires. Et donc, on a travaillé pendant un an ou deux avant de lancer, il y a 10 ans à peu près, le Cabas des Champs à Quéréderne.
Ah, c'est quoi, en gros?
Le Cabas des Champs, c'est des paysans locaux qui nous vendent les légumes, les produits laitiers, le fromage, des crêpes, enfin des gens qui fabriquent des crêpes, du pain et tout ça. Et à prix coûtant, c'est tenu par des bénévoles. Les gens commandent une semaine et puis... ils viennent chercher la semaine d'après. Et ça fait 10 ans que ça dure maintenant. Et après est venu se rajouter le VRAC. C'est une épicerie vers un réseau d'achat en commun pour les quartiers populaires.
Ça existe toujours.
Ouais. Ça existe. Et par exemple, à Quéréderne, on a fait la livraison mardi. Il y avait une 50aine de personnes qui viennent chercher des paniers. Mais... on s'interroge quand même parce que c'est pas toujours, notamment pour le Cabas des Champs, c'est pas toujours les gens les plus démunis qui peuvent venir parce que malheureusement, ça reste encore plus cher que des fois les marchés ou, faut pas faire de pub, mais certains supermarchés ou des choses comme ça.
D'accord. Oui, les réalités. Hein. D'où l'intérêt aussi d'avoir cette caisse commune alimentaire. Alors à Brest, comment est-ce que vous avez mis en place la chose ? Alors c'est Adèle Ferré peut-être qui va nous dire combien de personnes, qui, etc.
En fait, la caisse commune alimentaire de Brest, elle s'est constituée au début autour d'un collectif d'associations. Donc il y avait 12 associations, je ne vais pas toutes les lister, je vais en oublier, c'est sûr. 12 associations qui agissent sur le terrain et sur des questions assez diverses d'alimentation, d'agriculture, de santé, de lien social, etc. Et donc elles sont réunies et pour commencer à émerger cette réflexion-là. Et après on a fait des réunions et des temps de mobilisation en fait pour
des réunions publiques quoi.
Des réunions ouvert, publiques pour des temps à la de mobilisation population. Ouais okay. Sur les marchés etc. Pour interpeller des habitants habitantes qui seraient partants pour tester le dispositif. Et du coup on a fait après des réunions plutôt pour construire, parce que l'idée de la caisse commune c'est que c'est vraiment les personnes qui vont participer, qui vont décider aussi de tout.
Elles mettent de l'argent quand même, quoi. Même si elles ne mettent pas tout l'argent, enfin, on va revenir là-dessus.
Ouais. Mais c'est elles qui décident aussi sur quoi on se base pour établir cette cotisation, quels critères on se donne pour les lieux qui vont être conventionnés, etc. Donc il y a tout un travail aussi de co-construction avec les habitants et habitantes, ce qui est hyper important et hyper riche. Ou aussi on fait des animations pour comprendre l'alimentation, l'agriculture, échanger autour de ce qu'on mange, pourquoi on mange ça, comment on mange, enfin voilà. Et après...
Qu'est-ce qu'on veut manger,
qu'est-ce qu'on aimerait manger. Et donc en fait, c'est 43 foyers qui ont participé, donc ça fait 101 personnes.
Et donc assez varié, enfin, je disais en introduction, c'est diversifié quand même.
Oui.
Voilà, des jeunes, des vieux, de tous les quartiers, non ? Ou Quéréderne seulement ou,
Non, en fait au début c'était plutôt Brest-Nord, maintenant ça a été tout Brest-Métropole, parce qu'il y avait même des gens de Guipava, de Gouesnou, de Beauharde, de... Voilà, à peu près tout. Et des gens de tous les quartiers de Brest, pas forcément des quartiers prioritaires. En fait, l'objectif, c'est que c'est vraiment une mixité de population et c'est ça qui fait aussi la richesse du projet. Oui. Et il faut aussi des gens qui vont cotiser plus, des gens qui vont cotiser moins pour qu'il y ait un équilibre. Et c'est des gens de tout âge. Il y a de 24 à 80 ans, je crois. Une majorité de femmes. très peu d'hommes. Mmh. Mais sinon, voilà, aussi toute composition familiale, enfin des couples avec enfants, des couples sans enfants, des familles monoparentales, des personnes seules. L'idée, c'est que ce soit au maximum représentatif de la population.
C'est ça. Et donc, le principe, c'est de donner une certaine somme, justement. Alors, c'est quoi, une fois par mois comment ouais, ça se passe
C'est ça, les personnes, elles vont cotiser mensuellement. Donc,
combien, là, c'était combien, à peu près, entre la fourchette, enfin, entre les plus grosses et les plus petites cotisations?
Alors, ça allait de 5 euros à 472 euros, parce que, en fait, les grilles sont calculées en fonction du nombre de personnes dans le foyer. Donc, une personne seule cotise 5 euros au minimum. Et là, 472, c'est les personnes qui ont cotisé pour deux, qui étaient dans un foyer de deux, mais qui, en échange, recevaient 225 euros. En fait, les personnes vont cotiser suivant... Là, on s'est décidé sur le revenu disponible, donc tout ce qui arrive dans le foyer. Et après, tout le monde reçoit 150 euros par personne. Peu importe ce que les personnes ont donné.
Et alors, on reçoit 150 euros, mais c'est des bons d'achat? Qu'est-ce que c'est exactement la matérialité de ces 150 euros?
Je vais expliquer, Michel.
Oui, Michel.
En fait, on reçoit 150 euros. C'est un compte qui est ouvert sur notre portable et on a un code. Comment ça s'appelle déjà? Un code barre?
Un QR code.
On voit. Et on payait comme ça à la Coop Bio, enfin dans les magasins où on allait. En fait, on n'a pas d'argent liquide, mais on a la liberté totale d'aller acheter dans des lieux qu'on a choisis ensemble.
Et alors, les lieux, justement, quels étaient-ils? C'était plutôt quoi?
Ben, c'était plutôt les producteurs locaux. Ah bon, oui. On avait le droit d'acheter au Cabas des Champs, au Vrac, au Coop Bio,
l'épicerie solidaire en réseau, en mixité. Il y avait aussi des producteurs et productrices qui étaient sur le marché de Quérinou, principalement. Il y avait aussi Jardin de Prélude. Il y avait une boulangerie, le Four de Babel.
Jardin de Prélude, c'est quoi?
Jardin de Prélude, c'est une association d'insertion par le maraîchage.
Ok.
Qui font des paniers aussi.
Des produits, donc.
Ouais, c'est ça. Il y avait aussi une maraîchère à Gouénou, Eve. Voilà, Four de Babel.
Et la COP de la rue Jean Jaurès, là, le magasin.
Ah, petit
COP, on connaît bien. Vous pouvez aller sur le site internet, redécouvrir ce magasin coopératif. Mais alors, TICOP, c'est un peu particulier, parce qu'il faut être normalement coopérateur pour être client. Donc, ça veut dire que les gens qui allaient à TICOP, ils étaient aussi coopérateurs, ou comment ça se passait?
Il y avait une exception, ça a été une longue discussion, ouais. Et en fait, comme déjà participer à la caisse, en fait, c'est un investissement, parce que il y avait des réunions mensuelles, il y avait des animations, etc. On trouvait ça lourd de demander en plus aux personnes de tenir un créneau pendant 3 heures. Ouais. Donc là, il y avait un créneau invité, en fait, qui était ouvert pendant la période des 6 mois pour les personnes qui voulaient acheter.
Ok. Donc, les gens achetaient 150 euros. Donc, il y avait pas de... donc, si on cotise 472 euros ou 475 et on ne touche que 150 euros, enfin, c'est... les gens, vous avez trouvé des gens qui étaient d'accord pour ça? Ça paraît étonnant quand même.
Oui. Alors là, par exemple, les personnes qui ont cotisé 472, elles ont reçu 225 parce que c'est par part. Alors, il y en avait peu, c'était quand même minoritaire. Les personnes, sur les 43, on avait 6 foyers qui cotisaient plus qu'ils le recevaient. Alors, c'est quelque chose qu'on aimerait développer aussi, d'avoir plus de foyers cotisants, parce que c'est ça qui nous permet de rendre pérenne, en fait, le projet. C'est d'autres arguments qu'on met en avant. Là, les 6 foyers qu'on cotisait, c'est surtout des personnes militantes qui déjà étaient investies dans beaucoup d'associations. Et on a eu aussi l'exemple, en fait, de foyers qui sont venus, qu'on dit, bon, bah, nous, on teste 6 mois, parce que financièrement, c'est quand même beaucoup et qu'on donne déjà dans d'autres assos. Et après les 6 mois, quand on a fait le bilan, ils ont dit, en fait, on veut continuer parce que on cotise plus, mais en fait, on rencontre les personnes. En fait, on devient un groupe et on sait où notre argent va.
C'est ça.
Et c'est plus parlant que des fois faire des dons à des assos nationales. Voilà.
Oui, c'est concret au moins. Ouais. Et parce que oui, Michel.
En fait, moi, j'ai parlé avec des gens qui ont cotisé plus aussi. Ouais, moi, je cotisais moins, mais ils disaient que c'était un peu compliqué. Enfin, il n'y a pas de déduction fiscale, contrairement à d'autres.
Bah oui.
Donc, il faudrait que ça progresse à ce niveau-là. Et puis, est-ce que pour moi, ça devrait avancer vers une automatisation sur le bulletin de salaire, sur la, ou bien sur les retraites, afin qu'on reçoive cette somme-là et que ça soit l'État qui, enfin, que ça soit pris en charge par la collectivité.
C'est
quoi.
Ça, parce que c'est ce que j'allais dire, la sécurité sociale de santé, enfin, des médicaments, on ne cotise pas plus qu'on ne, enfin, on est remboursé, à part, bon, maintenant, on est moins en moins remboursé, mais bon, c'est pour tout le monde pareil, c'est ça que je veux dire, pour les particuliers, en tout cas.
Non, alors si, c'est exactement le même principe, c'est simplement que c'est appliqué à une telle grande échelle que c'est quasiment, on a le sentiment que c'est transparent, c'est-à-dire que les cotisations sociales étant prélevées directement sur nos salaires pour les personnes qui cotisent, et pour, enfin, il y a d'autres systèmes pour les personnes qui ne sont pas salariées, il y a en fait une solidarité nationale qui est à l'échelle de millions d'habitants.
Et c'est ça. Oui, on est prélevé sur son salaire en fonction de son salaire, en fait, c'est ça. Oui, on cotise donc plus quand on a un gros salaire.
Bah, oui. Exactement, mais voilà. Sauf que du coup c'est le même principe pour les cotisations de la caisse, c'est-à-dire qu'on cotise plus quand on a un plus gros salaire.
Et ça se voit moins.
Du coup, c'est là que la différence avec d'autres initiatives est intéressante, c'est qu'on ne parle pas de dons, on parle bien de cotisations, même quand les personnes elles vont cotiser plus que ce qu'elles vont recevoir. C'est pour ça effectivement qu'il n'y a pas de défiscalisation, c'est parce qu'on parle bien d'une cotisation et qui met encore une fois les gens sur un pied d'égalité, dans le sens où on n'est pas sur des personnes qui vont donner à d'autres, même si ça donne cette impression-là, puisqu'on est à l'échelle d'une expérimentation qui concerne 100 personnes, donc on peut les nommer.
Oui. C'est ça, ben oui, en plus, côté, on peut savoir qui paye plus ou moins, d'anonyme. C'est vrai.
Ouais, effectivement, il n'y a pas d'anonymat à cette échelle-là d'un groupe, et c'est pour ça, en fait, que les expérimentations de caisses communes alimentaires, qui sont donc inspirées de la sécurité sociale de l'alimentation, elles sont... pas à l'équilibre, puisque du coup, à l'échelle de si peu de personnes, c'est pas vraiment possible. Et ça fait peser un poids assez lourd. D'où, effectivement, un travail de recherche de financement complémentaire.
Elles sont, voilà, c'est ce que j'allais dire. Elles sont en plus subventionnées, souvent.
Oui.
Là, vous aviez des subventions en plus.
Oui. Bah, toutes les caisses, en fait, sont subventionnées en France actuellement, les caisses communes, parce que, comme a dit Violette, c'est compliqué aussi de... Enfin, ça prend plus de temps aussi à expliquer aux personnes leur impact. Après, y en a qui ont dit, dans les personnes qui ont cotisé plus, il y a un impact aussi sur le territoire, parce que l'argent, il circule sur le territoire. Donc, en fait, il y a plusieurs arguments à mettre en lien. Mais après, personne dans la caisse savait qui cotisait combien. Même dans les associations, dans les structures, personne. Enfin, c'était pas écrit sur le front. Et donc ça, c'était bien aussi, parce que justement, en fait, tout le monde avait le droit de parler et de voter et de décider, peu importe.
Vous votiez, de toute façon, c'était une personne, une voix.
Oui, c'est ça.
Voilà, et personne quelle que sait, soit sa contribution, même si on contribue deux fois plus, on n'a pas deux fois plus de voix, quoi.
Non, c'est ça. C'est et ça puis aussi. En fait, il y a des personnes qui voulaient le dire, qu'elles avaient cotisé moins, qu'elles avaient cotisé plus. Ça les regardait.
Oui.
Mais nous, en tout cas... personne n'était au courant de ça.
Donc, oui.
Et même dans les magasins, en fait.
Et bien sûr. Et en fait, j'ai une autre question, alors sur cette fois côté production, des personnes en tout cas qui vendent les produits. Là, et ça, j'imagine qu'il n'y avait pas de problème de rupture de stock ou de choses comme ça, mais c'est vrai que si on imagine à l'échelle d'un pays entier, il faut que la production puisse suivre la demande aussi. Parce que c'est super, là. C'est vrai que ça donne envie d'acheter tout bio, mais est-ce qu'après, on a assez de production bio.
Je pense que le moment où on se posera cette question, on sera passé une sacrée période de... Ouais. Enfin, je sais pas, moi, je souhaite en arriver là. En
bah oui, bien sûr.
À se poser cette question.
On en importe, en fait, du bio.
En fait, à l'échelle de la France. Parce que sur certains produits, on produit pas en interne. C'est ça, en fait.
Ouais, alors effectivement, les expérimentations de caisses alimentaires à ce stade-là de leur... développement, on ne peut pas dire qu'elles ont un pouvoir de transformation du système de production locale, puisque c'est tout simplement une question d'échelle. Sans personnes ne peuvent pas transformer tout le système agricole, malgré une demande qui augmente sur certains produits bio et locaux, etc. Donc effectivement, il y a quand même cette ambition qui est affichée en général dans les objectifs des caisses. C'est une volonté aussi politique, militante d'aller vers ça. Après, voilà, il y a ce principe de réalité, mais du coup, effectivement, c'est pour ça qu'on parle plutôt d'expérimentation inspirée de la sécurité sociale de l'alimentation, puisqu'on ne peut pas dire que ce sera la même chose à une échelle nationale. Le système sera forcément complètement différent.
Et on parle au futur, ça aura lieu. Hein, on ne parle pas conditionnel. Un jour, on aura une sécurité sociale alimentaire.
Bien sûr.
Espérons. Oui. Et alors, si on fait le bilan de cette expérimentation du point de vue des plus, des moins, Adèle Ferré, qu'est-ce qui a difficilement marché, qui a été difficile à mettre en œuvre, et qu'est-ce qui, à l'inverse, a bien fonctionné ?
Bah, déjà que ça ait fonctionné, que ce soit né, déjà, on était plutôt contents de ça, parce que, en fait, on savait où on voulait aller, après, comment, et en fait, est-ce que ça va se faire ? Donc, déjà, on était contents que ça existe. Franchement, déjà. Les points positifs, c'était quand même, en tout cas avec les échanges, c'est quand même que la mixité était hyper riche et du coup, il y avait des échanges qui étaient hyper chouettes avec des personnes de milieux différents, de vies. Enfin, c'était. Moi, j'ai trouvé ça super et les échanges que j'ai eus, c'était surtout ça. Et puis après, en fait, pour beaucoup, c'était une découverte des produits, c'était une découverte de goût, de plein de choses qui ont été super riches pour moi. Je sais pas.
Michel va nous dire ça.
Ouais. Ouais. Ouais, moi, j'ai trouvé aussi les échanges avec les gens super sympas. Et puis, c'était toujours gay. Et puis, il y avait, je pense, à une personne qui disait « Oh, mais moi, je suis allée dans la Côte Bio, mais j'osais pas toucher. C'est comme si je devais toucher des diamants. »
Ah bon ?
Mais c'est vrai. Tellement, c'était pas les prix qu'on avait l'habitude de pratiquer, auxquels on a l'habitude d'acheter, même si on sait que c'est le prix juste. Mais c'est pas le prix auquel on peut acheter la nourriture habituellement.
Quand on n'a pas de moyens, ouais.
Quand
c'est
on n'a pas les moyens.
Ouais, c'est ça. Et vous, Michel, est-ce que, par exemple, vous trouviez vous avez découvert des produits ou des magasins grâce à cette opération
J'ai découvert le magasin de la rue Jean Jaurès, la COP.
Ticop.
Et puis, autrement, la COP Bio, j'y allais avant d'avoir eu des enfants. Et après, j'avais plus les moyens. Et là, j'ai redécouvert la viande bio qui est quand même nettement, enfin pour moi nettement meilleur que la viande tradie, enfin qu'on achète en supermarché. Et j'ai surtout découvert aussi les échanges avec les gens, les différents points de vue. C'est très enrichissant, c'est très démocratique.
Oui, vous n'aviez pas trop de mal, Adèle, à mettre en place toute cette décision avec des gens qui sont répartis partout dans Brest. Enfin, la gouvernance partagée, c'est bien joli, mais parfois c'est long.
Oui, alors ça, c'est clairement un des points aussi à améliorer, parce que c'est toujours en mouvement aussi, ça dépend du nombre de personnes, ça dépend. Alors, j'étais pas toute seule, il y avait quand même les 12 associations qui m'épaulaient sur de l'animation, sur de l'organisation, etc. Donc, et en fait, je pense que ça, c'est un point qui sera aussi à améliorer, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire actuellement. Mais c'est pas évident, surtout que nous on faisait deux horaires par jour de réunion pour en fait permettre aux personnes de venir, parce que suivant les contraintes
ceux qui travaillent, ceux qui travaillent pas,
etc. Donc on faisait deux horaires par jour, donc ça des fois multipliait aussi les décisions. Et mais en fait, c'est ça aussi qui est bien, et c'est ça qui fait le processus riche, quoi. C'est de prendre le temps aussi pour ces décisions-là, et de créer des ponts entre les gens, entre les agriculteurs, les agricultrices, les habitantes. Enfin,
ça fait partie de la convivialité de l'opération, quoi.
La convivialité est un point
c'est ça,
majeur, nous, qu'on a mis en tout cas. Toujours avoir quelque chose à partager, à manger, de faire des repas à partager, de cuisiner ensemble. Et c'est ça aussi qui crée le moment sympa. En fait, c'est qu'on parle d'alimentation, mais c'est bien de manger aussi.
Et on s'échange des recettes.
Et c'est
aussi
en mangeant aussi qu'on discute le plus, qu'on échange le plus. Et c'est assez intime, en fait, de discuter de nos habitudes aussi alimentaires, etc.
Ah, mais c'est une question d'identité, quelque part, l'alimentation.
Ah, on mange tous les jours, ouais.
Et puis, il y avait peut-être aussi des effets sur la santé pour certaines personnes. Enfin, Michel, vous, ça n'a peut-être pas changé grand-chose, mais il y a eu d'autres améliorations à ce niveau-là.
Oui, en fait, c'est vrai que la santé, c'est pas un point qu'on a trop développé dans l'évaluation, en tout cas, parce que sur 6 mois, c'est assez compliqué à évaluer. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Mais c'est plutôt des échanges qu'on a eus de personnes, je me rappelle, d'une mère de famille qui, le matin, avait donné du pain à ses enfants.
Au lieu des céréales.
Moins ultra transformés. Et en fait, elle disait, oh là là, ils sont moins énervés le matin et ils sont plus sympas et plus cool. Et ça, ça a été fait assez rapidement. Enfin, l'effet, en tout cas, a été visible assez rapidement. Des gens aussi qui, du coup, mangeaient moins de sucre et maintenant se rendent compte qu'ils supportent moins le sucre, entre guillemets. Il y a eu aussi quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes digestifs, en fait, notamment parce que la qualité dans l'aide alimentaire n'était pas forcément toujours là. Et elle a découvert le pain au levain du four de Babel et elle a dit « Waouh, maintenant j'ai plus de problèmes digestifs et ça me fait vraiment du bien. Alors voilà, c'est plutôt des retours à chaud qu'on a eu.
Bien sûr, c'est pas ça, pas valeur scientifique, ouais. Mais bon, mais c'est intéressant.
C'est un point qu'on aimerait beaucoup développer, en fait, le lien, bah on le sait, hein, le lien entre alimentation et santé. Et c'est aussi un point qu'on aimerait développer pour montrer les externalités aussi positives de ce projet-là. C'est pas juste.
C'est un argument massue, hein, la santé en général.
Ouais, c'est ça. De faire les liens entre alimentation et santé, c'est assez important pour dire voilà en fait ce que ça a produit. Et si on met plus d'argent dans ce projet-là, ça permettra aussi peut-être de diminuer des dépenses dans d'autres secteurs.
Ça me paraît évident, moi, mais bon, oui, oui.
Mais voilà, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de développer.
Violette, un petit mot de conclusion.
Moi, j'ai envie de redonner la parole pour les suites.
C'est ça.
2026.
Quelles seront les suites,
Alors, bah, on souhaite poursuivre. Là, on a un objectif de reprise de la caisse, en tout cas, à la rentrée 2026. L'idée, c'est de faire avec plus de personnes sur un plus long terme, parce que c'est plus pertinent.
Toujours à Brest, quoi. Enfin,
toujours à Brest, métropole, ouais, parce qu'il y a déjà beaucoup de...
c'est déjà un grand territoire, c'est clair. Ouais.
Donc, plus de personnes sur une plus longue durée. Là, on est en train de retravailler justement sur les points qui n'allaient pas ou qui étaient à retravailler, comme la gouvernance, pour retravailler après les grilles de cotisation, de conventionnement, pour que ce soit plus adapté aux réalités. Et puis, en fait, en le vivant, on voit ce qui va, ce qui ne va pas. Et de créer une association aussi, parce que là, pour l'instant, c'est un collectif, mais de créer une association à part entière et de faire aussi de mobiliser plutôt, faire des événements grand public aussi pour parler de ce projet-là, sans forcément recruter, mais voilà. Ouais.
Et l'association s'appellerait À Table aussi. Michel, vous participerez aussi. S'il y a une autre caisse, vous continuerez, j'imagine.
Ben, j'aimerais bien participer, parce que j'ai eu la chance de participer à la première. Mais si jamais il y a d'autres candidats et qu'il n'y a pas de place, je donnerai ma place.
Ah oui, le nombre de places sera limité.
Ouais. Bah, malheureusement, ouais, financièrement, on ne sait pas encore. Mais...
Moi, je suis grand-mère et je trouve important, je trouve important d'acheter des aliments sains pour mes petits-enfants. Même, surtout, c'est surtout à eux qu'on pense, et aux liens santé et nourriture, quoi.
Très bien, on va s'arrêter là et on va vous remercier, on vous donne rendez-vous pour la prochaine caisse. Et en attendant, on peut réécouter cette émission sur le site de la radio. Au revoir, à bientôt.
Au revoir.
Merci.
Merci.